Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France.
Bonsoir à tous, chers amis. Bienvenue dans les vraies voix qui font bouger la France. Le mercredi soir sur Sud Radio, à partir de 19h, la parole est aux entrepreneurs. À partir de 19h30, vous retrouverez Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismarck. Parlons vrai avec les entrepreneurs. Il recevra ses invités. Mais avant, sa place aux voix des entrepreneurs avec Denis Jacquet qui fait son entrée dans le studio de Sud Radio. Nous allons parler alimentation, mais avec un grand A. Est-ce que les Français, c'est-à-dire nous tous, nous allons mieux manger après tous ces confinements que nous avons traversés? Qu'est-ce qui va changer dans notre assiette après cette crise que nous traversons depuis plus d'un an? On en parle avec un grand témoin d'exception quand même, le chef Thierry Marx, qui est avec nous ce soir sur Sud Radio. On vous présentera aussi des initiatives assez particulières avec les startups de Vanessa Pérez, notamment une startup qui fait pousser des champignons un peu partout dans les grandes villes. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Sud Radio, parlons vrai.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio, parlons vrai.
Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, Denis Jacquet, les voix des entrepreneurs.
Les voix des entrepreneurs, comme tous les mercredis soirs de 19h à 19h30 sur Sud Radio, en compagnie de Denis Jacquet qu'on a retrouvé. Bonsoir à vous, mon cher Denis.
Ça y est, je suis de retour en studio. Enfin.
Vous étiez toujours sur Sud Radio. Ouais. On n'est jamais très loin de Sud Radio d'ailleurs. Au programme ce soir, nous allons parler de notre assiette, nous allons parler de l'alimentation. Ça fait un an, plus d'un an même, que les restaurants sont tour à tour fermés, réduits, fermés plus tôt, fermés moins tôt, avec moins de monde à l'intérieur, parfois fermés complètement. On en parle ce soir avec notre grand témoin. Bonsoir à vous, Thierry Marx.
Bonsoir.
Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Sud Radio. Vous êtes chef étoilé, on ne vous présente plus. Vous êtes aussi, on en parlera, le fondateur de Cuisine Mode d'Emploi. On parlera aussi d'une initiative que vous avez lancée avec une start-up il y a quelques temps sur du chocolat sans sucre ajouté qui devrait plaire à tous les gourmets. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Vanessa Pérez, auteure du livre Entrepreneur d'un monde nouveau chez Kawa Édition. Bonsoir à vous.
Bonsoir,
Vanessa. Deux pépites ce soir que vous nous présentez, comme à chaque fois que vous êtes chez nous dans les voies des entrepreneurs. Une qui plante des champignons en ville.
Exactement, Cycloponics.
Ouais.
Et une qui permet d'améliorer le niveau de vie des producteurs, mais offre des produits excellents, qui s'appelle Omi.
Comment joindre l'utile à l'agréable? Est-ce qu'on va manger mieux? Est-ce que les Français vont mieux manger après ces périodes de confinement? Pourquoi cette question qui vous taraudait justement, Denis Jacquet?
Non, mais on est tous en train de se demander finalement si cette crise a un impact sur quelque chose. Alors, on voit bien ce qu'elle pourrait produire de pire. On se demande ce qu'elle pourrait produire de mieux, et notamment sur l'alimentation. Alors, c'est vrai qu'on a eu la sensation, moi le premier, bloqué en France, qu'on a suivi les cours notamment de l'Ignac à peu près tous les soirs pendant quelques mois. Et on voit quand même, Thierry, toutes ces émissions depuis plusieurs années sur la pâtisserie. Est-ce qu'il y a un retour? On en discutait avant l'émission. Est-ce qu'on passe de l'alimentation, je fais un régime parce que je veux maigrir, à une vraie alimentation?
Thierry Marx.
Je pense qu'il y a l'aspect ludique de la cuisine, refaire la cuisine. Alors, c'est intéressant, ce ne sera pas suffisant. C'est-à-dire qu'il y a une vraie question à se poser, c'est notre alimentation, et on s'est beaucoup posé de questions sur les masques, sur les vaccins, pas suffisamment sur l'alimentation. Et cette Covid, elle vit bien dans notre corps, parce que notre corps n'est pas en meilleure forme. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet sur l'alimentation, un vrai sujet de fond, donc, qui est l'agriculture, qui a commencé ce travail avec des gens comme Pierre Veille, par exemple, et puis... Enfin, la synthèse dans l'assiette. Mais là où je rejoins ce plateau, c'est oui, il y a une prise de conscience qu'il faut cuisiner pour aller mieux, et puis aussi faire cette transition avec l'agriculture dont on a absolument besoin.
Est-ce qu'on constate que le manque de restaurants dont ont souffert les Français, ils ne s'attendaient pas à souffrir de ça un jour, parce que pour nous, les restaurants étaient faits pour être toujours ouverts, ça les a poussés parfois à faire des exceptions dans leur propre cuisine?
Alors, je pense qu'effectivement, ça a poussé les gens à faire la cuisine, mais la cuisine n'est pas tout. C'est-à-dire que c'est global, c'est holistique. Quand vous descendez boire un café, qui est des fois pas terrible, en bas de chez vous, c'est pour la vie sociale que ça représente.
Exactement.
Et n'oublions pas que la restauration, c'est le restaurant, le bistrot, c'est du lien social. C'est tout ces rencontres qui fait que vous appréciez un plat ou pas. Et puis, on a découvert aussi que, et notamment dans le premier confinement, que la consommation, c'était aussi du lien social.
C'est ça.
Alors, on peut critiquer, ça et là, et moi je suis un des premiers à critiquer la surconsommation. Mais tous ces manques, finalement, aujourd'hui, nous créent un certain nombre de troubles que l'on ressent, et il est temps qu'on sorte de ces confinements.
Il est temps qu'on se retrouve tous, quitte à se retrouver dehors. Denis Jacquet.
Petite question, parce que je sais que vous connaissiez un peu, et on ne peut pas réduire le dossier à ça, mais néanmoins, est-ce que ça t'a choqué ce qui s'est passé chez Danone avec Emmanuel Faber, en disant voilà un gars qui se bat quand même pour essayer de distiller un message, et puis tout à coup, ah, les performances sont plus là.
Oui.
sorti.
Moi, j'étais un fervent supporter d'Emmanuel Faber. Je crois qu'il était en train de faire une transition extraordinaire à Danone. D'abord, en tant qu'homme, je l'appréciais beaucoup. Je pense qu'il fait partie de ces hommes qui croient à la croissance, mais à la croissance en conscience. Ouais. Et c'est ça, l'impact social et l'impact environnemental. Alors, évidemment, quand on a ce type de discours, quand on est dans le monde de l'entreprise, on est un peu un électron libre. Et le risque, c'est que les anticorps de cet énorme corps qu'est Danone aient fini par avoir la peau de cet électron libre. Mais en tout cas, c'était un personnage formidable. Il va rebondir, j'en suis certain. Ouais. Et il rebondira, j'espère, dans l'alimentation, j'espère sur des fonds d'investissement à impact social et impact environnemental, avec des fonds d'investissement qui ne demandent pas à une agriculture des paybacks sur 3 ou 4 ans, mais des paybacks sur 8, 10 ans pour pouvoir réussir ces transitions dont on a besoin.
On rappelle Emmanuel Faber, le patron du géant français Danone, poussé vers la sortie sous la pression de certains de ses actionnaires qui lui reprochaient des résultats insuffisants, en tout cas. Denis.
Alors, parce que bon, pour tous ceux qui suivent un peu Thierry Marx ou qui le connaissent, on a l'impression qu'il a une centaine de vies. On dit tous que les chats en ont 9, je pense que Thierry en a 18. Donc c'est un chat au carré, en quelque sorte. Non, ça ferait 81. Donc, cuisine mode d'emploi, parce que ça, c'est beau, parce que c'est aussi des... Quand on est dans le monde d'entrepreneuriat, on aime bien mesurer. Et c'est vrai que souvent, tu m'as dit, les taux de réinsertion de ces jeunes, notamment à Marseille, dans les quartiers nord, sont très forts.
On rappelle d'ailleurs, au début, le concept de cuisine de mode d'emploi.
Et comment ça marche ?
Le concept de cuisine mode d'emploi, c'est simple. C'est de proposer une formation professionnelle dans les métiers de la cuisine, de la boulangerie, dans les métiers du service. Maintenant, on a ajouté les métiers du sport et les métiers de l'image. Donc, c'est simple. C'est 11 semaines pour vous former. 8 semaines intensives en école et le reste en entreprise, montée en compétences, en situation opérationnelle. Aujourd'hui, c'est 9 écoles en France, plus des écoles itinérantes, une école en Colombie et une école à Détroit sur le même principe. Concept. Les résultats aujourd'hui, vu que les écoles se sont multipliées, le taux de réussite a un petit peu baissé, mais on est encore à 89%
de réinsertion.
Et on a mesuré aussi ceux qui n'y arrivaient pas jusqu'au bout pour les aider à faire une prépa pour qu'ils puissent aller jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, ça a été 5000 personnes formées, en gros, et 9% de création d'entreprises durables, parce qu'elles existent toujours, les entreprises.
Et c'était des gens qui n'avaient pas du tout de travail avant.
Alors, ils étaient dans quel le profil de ce public, il est simple, c'est des gens en reconversion, des gens éloignés de l'emploi, très éloignés de l'emploi en précarité, et puis des personnes avec des accidents de parcours qui peuvent être par moments sous main de justice, et d'avoir besoin de sortir et d'avoir un nouveau projet.
Ils ont trouvé une deuxième voie grâce à vous.
C'est pas de trouver une deuxième pas, c'est pas une histoire de seconde chance. On peut avoir dans la vie besoin de 10 secondes chances. C'est de dire à quel moment je permets à une personne de remettre en perspective un projet. Et vous remarquerez, et on le remarque tous, que quelqu'un qui vous parle de diplôme regarde en l'air ou regarde ses pieds, et quand vous dites, mais pourquoi tu veux être cuisinier ? Ben, un jour, j'aimerais ressembler à Cyril Lignac, et je ferai de la télé, et j'aurai un restaurant connu, et je serai un chef connu. Et vous voyez, c'est les yeux qui brillent, et on regarde la ligne d'horizon. Donc voilà, on est là pour consolider le projet et accompagner en se disant, on apprend plus vite. On apprend plus vite aujourd'hui parce que on a deux cerveaux. Ces jeunes gens, ils ont deux cerveaux. Ils ont le cerveau qui est posé sur leurs épaules et puis dans la poche arrière, ils ont un deuxième cerveau numérique qui les aide. Moi, si je dis, par exemple, est-ce qu'on fait le filet de bœuf Wellington ? Immédiatement, tous ces gamins me disent quelle recette ? Il y en a 45 sur la toile. Et en même temps, il me reste à leur apprendre le geste. Voilà. Donc, le métier de cuisinier, comme le métier de boulanger d'ailleurs, maîtrise du geste, maîtrise du feu, la cuisson, et maîtrise du temps. Le temps pour faire et le temps, la saisonnalité. Une fois que vous avez conçu ce ternaire, les recettes, elles sont libres d'accès. Et donc, je n'ai pas à leur donner des recettes, j'ai juste à leur donner des gestes techniques.
Sachant que chacun peut en plus adapter sa propre recette, justement, puisque chaque cuisinier...
Mais c'est la grande phrase d'Alain Chapelle, la cuisine n'est pas que des recettes, c'est une histoire d'homme, au sens large du terme, je l'entends, de connexion, de terroir, d'origine, en fonction de son patrimoine, de sa culture, tout ça, on hybride des ingrédients et on fait une cuisine qui a pour vocation de laisser une empreinte, vu que la cuisine, c'est quand même de donner de la mémoire et de l'éphémère.
la transmission justement. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est un peu aussi le concept de cuisine mode d'emploi. On va vous présenter plusieurs pépites avec Vanessa Pérez qui est avec nous sur Sud Radio. À chaque fois que vous venez, vous choisissez des startups qui vous plaisent justement en rapport avec le thème de l'émission des Voix des Entrepreneurs. Ce soir, vous nous présentez une startup qui s'appelle Omi.
Exactement, Omi, O-M-I-E pour nos auditeurs, ça c'est très important. Donc je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, c'est quoi finalement un bon produit alimentaire, hein? C'est un produit qui est avant tout effectivement bon, agréable et savoureux. C'est un produit sain, dont on connaît la composition, les qualités nutritionnelles, mais aussi l'origine. C'est un produit juste, qui rémunère correctement son producteur, et j'insiste vraiment sur ce point. Et enfin, c'est un produit respectueux de la planète, notamment en termes de transport et d'emballage.
Toutes les cases sont cochées.
Toutes les cases sont cochées avec cette start-up, donc Omi, qui propose des produits bons, sains, justes et durables, qui respectent la nature
et
les hommes.
Je suis le consommateur internaute. Comment je découvre Omi? Quel type de service? Je vais sur une plateforme?
Alors, vous allez effectivement sur le site omie.fr. Ouais. Et là, vous allez avoir une sorte de supermarché virtuel. Vous sélectionnez les produits qui vous plaisent. Vous avez toutes les informations nécessaires, combien est rémunéré le producteur, la traçabilité, l'histoire du producteur qui produit. Là, pour nos auditeurs en studio, j'ai apporté des biscuits salés, des mélanges de légumineuses. Vous avez le QR code qui vous donne toute l'histoire quand vous achetez le produit. Et là, vous commandez. Si vous êtes à Paris, région parisienne, Lille et Petite Couronne, vous êtes livré dans la journée. Mmh. Sinon, vous êtes livré dans les 24 heures. Et la marque compte vendre à peu près 400 produits d'ici un an, à peu près.
Ah, donc, pour répondre 400 références différentes.
Exactement, dans les produits hors... et produits épicerie, donc hors produits qui se mettent au réfrigérateur.
Du coup, on a quel type de produits aujourd'hui sur Omi?
Alors aujourd'hui, vous avez tous les produits d'épicerie, vous avez des biscuits salés, sucrés, des pâtes, des légumineuses, des snacks, du chocolat, du Panama que je vois ici, des produits apéritifs, donc toute la gamme de produits d'épicerie, tout ce que vous ne mettez pas au réfrigérateur.
Thierry Marx?
Je trouve ça, l'idée, ça me fait penser à la phrase de mon ami Daguin, qu'est-ce que c'est qu'un bon produit? Son impact social et son impact environnemental. Donc là, tout est réuni pour que ce soit un succès. Le succès, moi je charrie un peu, pardon.
les
startups, leur problème c'est la croissance. Parce que moi, quand je regarde des startups, je vois elles ont une capacité au cash burn qui est assez
à brûler
assez
du
fou.
Brûler
mais
du
après,
cash.
Quand on veut faire énormément, quand on parle de 400 produits, donc comment je les source, comment je les, je m'approche à la statistique, et bien souvent on les voit à ce moment-là, au moment de la croissance se déliter. C'est pas du tout ce que je leur souhaite parce qu'ils font un produit merveilleux, mais c'est là où quand on démarre une startup, ce qui a été mon cas de très nombreuses fois, c'est ça a été la croissance qui a été un problème. C'est à un moment donné, on grandit, on grossit, on a tout de suite
plus de monde. Ce qui était facile devient
ce qui était facile sur une tonne devient très difficile sur 10 tonnes. Et c'est là où on a besoin par moment de retrouver un deuxième souffle, un accompagnement qui n'est pas forcément uniquement un accompagnement financier, mais un accompagnement de croissance parce qu'à un moment donné, vous êtes en mal quand vous voulez chercher ne serait-ce qu'un légume bio en France, fait en France et transformé en France, c'est compliqué.
C'est très précis.
Sur 100 kilos, c'est assez simple, mais ça coûte très cher en logistique. Voilà. Sur 100 kilos, sur une tonne, c'est beaucoup plus compliqué.
C'est plus compliqué.
Mais c'est
ça
pas
coûte
le mal
moins cher
souhaite.
En logistique. C'est en logistique, du coup, c'est le seul avantage, j'imagine.
Oui, alors c'est pour ça que le discours de départ des start-upers est souvent très bon, très punchline. Et à un moment donné, les mecs ont dit, d'accord, vous allez grandir.
Et à un moment, on vous le souhaite. C'est la crise d'adolescence, effectivement.
Alors, voilà, c'est exact. Vous retirez le mot. C'est l'adolescent qui, à un moment donné, va passer à l'âge adulte, qui disait, le fantasme de Che Guevara, quand j'étais adolescent, c'était marrant, mais la réalité du terrain, planétaire, est autre chose.
Le temps de retrouver sa voie définitive, VOIX. Vanessa Pérez, autre start-up, autre coup de cœur aujourd'hui.
Oui, autre coup de cœur, donc Cycloponique. Et avant de vous présenter cette pépite, une petite question. Quel est le point commun entre une ferme urbaine et une place de parking? Eh bien, c'est que la place de parking... À peu près, Enfin, la place de parking, elle peut être transformée en ferme urbaine.
Ah.
Voilà. Vous savez que le développement des transports en commun, les nouvelles mobilités et certaines législations au niveau du sous-sol fait qu'aujourd'hui, il y a des milliers de mètres carrés disponibles. Et au lieu de les laisser dépérir sans les optimiser, il est possible de monter des fermes urbaines, que ce soit à titre individuel ou alors pour une exploitation de plus grande envergure. Et c'est ce que fait précisément Cycloponix.
Donc, si je vous suis, Vanessa, Cycloponix, en gros, va à Marseille, à Toulouse, à Bordeaux, à Paris, trouve des vieux parkings complètement désaffectés, tagués de partout, et plante des champignons.
Et plante des champignons, des endives, des radis ou tout autre micro-pousse. Et comme vous avez besoin d'assez peu de lumière et d'une très faible consommation, on est dans un cercle vertueux.
Et ce qui a l'air d'un petit miracle fonctionne.
Ça fonctionne très très bien, puisqu'à Strasbourg, ils ont installé une ferme dans un ancien bunker construit au 19e siècle. En plein cœur de Paris, dans le 18e arrondissement, ils ont réhabilité un ancien parking. Et à Bordeaux, ils sont installés dans des caves d'immeubles pour les transformer en fermes urbaines bio.
Et Dieu sait si à Bordeaux, les caves ne manquent pas, d'ailleurs, on peut le rappeler. Des fermes urbaines bio, quel type de champignons ?
Vous m'en demandez beaucoup aussi, j'ai la réponse. Ce sont des champignons de Paris et des champignons...
Des shiitake.
Des shiitake. Voilà. Merci Thierry.
Ouais. La définition du shiitake, j'ai du mal à visualiser
la forme. Ça ressemble, c'est un champignon marron, c'est aussi ce qu'on appelle un champignon de couche.
D'accord.
Mais qui a presque l'arôme d'un champignon de sous-bois, vous voyez, un peu la chanterelle, et c'est ça. Et puis, leurs endives sont très bonnes aussi, parce que là, je connais cette société, ces jeunes gens, et ils sont vraiment très bien, très bons. Et je les défends beaucoup parce que toutes ces micro-pousses, ces petites herbes, ça arrivait des graines qui arrivaient de Chine, poussées sur de la laine de verre qui arrivait de Hollande, et ces produits arrivaient de Hollande jusqu'à Rungis. Et je trouve que ces jeunes gens qui se sont intéressés effectivement à ces espaces urbains dans lesquels on pouvait faire une culture, la culture de l'endive, c'est toujours faite dans le noir, et qu'il y a un nombre de produits comme ça. J'ai trouvé que c'était très malin pour deux raisons. Un, parce que ça relocalise du savoir-faire français, et deux, c'est aussi extrêmement pédagogique pour les gens qui ont à consommer ce type de produit. Non, je trouve que c'est une très jolie start-up, ils font un boulot formidable.
Et c'est la meilleure manière qui soit de réhabiliter les lieux qui donnent le moins envie dans des grandes villes, parce que c'est vrai qu'un vieux parking désaffecté, c'est pas engageant. À la base, Denis Jacquet ?
Alors, avec Thierry, on discutait avant l'émission et il y a une très jolie phrase qui disait « Le poison, c'est une question de dose ». Bon, et c'est vrai que, comme tu sais, on est très proche de David Servan-Schreiber jusqu'à sa mort, qui avait vraiment étudié, essayé de regarder tout ce qui avait pu provoquer son cancer à l'époque. Et on avait vu l'augmentation du sucre, l'augmentation du sel. On en est où aujourd'hui ? Est-ce qu'on a entendu beaucoup parler du sel, beaucoup du sucre, il en faut moins, mais... Ça évolue
Ça évolue pas forcément dans le bon sens.
D'accord.
C'est vrai que le travail de M. Servan-Schreiber, que j'ai beaucoup, beaucoup lu, et je connais bien toute la famille qui est autour, et des gens formidables, et il s'est posé dans les premiers cette question sur l'alimentation. Ouais. Trop de sel, trop de sucre, trop de produits transformés. Ouais. Le souci aujourd'hui, il est sur l'ultra-transformation des produits, ce qu'on appelle les produits de cinquième catégorie. Et là, effectivement, il y a toujours trop de sel, trop de sucre. Et puis, cette industrie qui est une industrie qui répond à la demande du consommateur, elle répond, si on lui dit moins de sel, elle trouvera autre chose pour que ça ait un goût salé. Si on lui dit moins de sucre, elle va dire alors plus de sucre saccharose, je vais vous mettre du fructose. Mais comme tu l'as justement dit, c'est cette grande phrase de Paracel, je crois que c'est le 14e siècle, qui disait c'est la dose qui fait le poison. Et je crois qu'il faut reprendre conscience de ça. Il ne faut pas laisser à une industrie cette capacité de nous nourrir. Il faut réapprendre à faire la cuisine. C'est pas très compliqué et c'est le seul moyen de protéger sa santé. Et là, aujourd'hui, on a une date historique pour parler d'alimentation. Si on regarde ce qu'a écrit Pierre Veil, il y a très peu de temps, il a fait une tribune dans La Croix, chez vos confrères de La Croix, très intéressante. Il explique comment cette Covid, finalement, s'est calée sur des organismes qui étaient fatigués une mauvaise alimentation. Et on en a vu. Donc, il faut prendre à bras-le-corps ce problème de l'alimentation, retravailler vraiment encore plus en profondeur sur l'agriculture de demain. Il y a déjà une transition qui s'opère et qui est extrêmement intéressante, avec des potentiels business, parce que là, on est là aussi pour parler d'entrepreneuriat. On voit bien que le numérique s'installe dans l'agriculture et dans une agriculture de qualité, etc., etc. Donc, je pense que, effectivement, c'est la dose qui fait le poison. Il faut arrêter avec les produits ultra transformés, les E406, les gélifiants qui sont finalement plus des gélifiants naturels, mais qui deviennent des gélifiants très industrialisés. Et ça, votre organisme ne le connaît pas, ne sait pas le digérer. Et au même titre que c'est pas la peine de chercher des fois des portes de sortie. Moi, quand je regarde le véganisme, par exemple, je trouve ça extrêmement intéressant, le véganisme, quand vous faites la cuisine. Parce que dès lors que vous confiez à une industrie de vous transformer un fromage, eh bien, vous regardez les ingrédients et les intrants chimiques qu'il y a dedans.
C'est vraiment
catastrophique. Probablement que l'obèse de demain, il est vegan. Donc, vous voyez, il ne faut pas laisser à l'industrie. Je pense qu'il faut beaucoup travailler avec le monde agricole, mais en même temps être en capacité de transformer son alimentation.
Et justement, pour continuer à savoir ce qu'on mange et pourquoi on le mange et on a choisi de le manger, cette nouvelle rubrique que vous allez découvrir dans les voix des entrepreneurs sur Sud Radio toutes les semaines, on va vous proposer un coup de pouce à l'une des entreprises qu'on a présentées au cours de l'émission.
Oscar Power, connectez-vous à l'énergie d'aujourd'hui présente.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Le coup de pouce de Denis Jacquet.
Le coup de pouce de Denis Jacquet qui sera cette fois-ci délégué à Vanessa Pérez ce soir. Quelle entreprise a besoin d'un coup de pouce sur les deux perles que vous avez citées?
Eh bien, ce soir, nous avons eu le plaisir de recevoir le coup de pouce de Oscaro. Oscaro Power est très impliqué dans le domaine de l'amélioration de l'alimentation par le biais de son dirigeant, ancien élu à Bastia, qui souhaitait notamment soutenir les producteurs le micro, de la Vanessa. Start-up Omi, que nous avons eu le plaisir de découvrir ce soir.
Donc, un coup de pouce justement à la start-up Omi avec notre partenaire Oscaro Power.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Le coup de pouce de Denis Jacquet.
Avec Oscaro Power, connectez-vous à l'énergie d'aujourd'hui.
Chaque semaine, en tout cas, un coup de pouce à une entreprise que nous présentons. Peut-être pour conclure ces voix des entrepreneurs, on est quand même dans une situation particulière pour les restaurateurs. Comment vont vos entreprises, justement ? Thierry Marx.
Comment vont ? Alors, je pense que c'est la question qu'il ne faut pas se poser aujourd'hui. Ouais. Comment elles vont ? Pas bien. Vous savez qu'un entrepreneur, et autour de cette table, on en est convaincu, et je pense que les auditeurs aussi, ce que nous ne savons pas faire, c'est forcément créer de la dette, et que c'est assez anxiogène de voir une dette abyssale qui s'accumule. On nous a dit qu'il y avait des aides. Effectivement, il y a des aides, et c'est peut-être le pays où nous avons le plus d'aides, mais il n'est que, quand même, 2019, nous avions fait une bonne année. Oui. Nous avions fait du revenu, des revenus assez conséquents. Aujourd'hui, nous payons nos taxes, nos impôts liés à ces 2019. Et nous mangeons totalement notre trésorerie. Donc, le PGE n'est pas forcément une aide, c'est un prêt.
Le prêt garanti par l'État.
Qu'on va rembourser.
Ce sera remboursé.
Merci pour le chômage partiel, c'est une vraie aide. Mais aujourd'hui, il va falloir relancer nos entreprises. Mmh. Une entreprise, ce n'est pas un grille-pain. Non. On ne rebranche pas et ça redémarre. Donc, il va falloir retrouver de la cohésion. Il va falloir retrouver du personnel parce que 100 000 postes ont disparu les métiers d'hôtellerie et restauration. Il faut le prendre en considération. Ça va partir, on le sait. Et puis, on a découvert plein de choses aussi extrêmement intéressantes. Je ne veux pas faire le pessimiste de service. Je pense qu'on a vu énormément de signaux faibles arriver dans des business liés à l'alimentation, dans la numérisation de notre métier. On ne s'y attendait pas. Mais entre les deux confinements, finalement, on a su qu'il fallait numériser notre métier. Et ce qui a ulcéré peut-être les chefs français et cette gastronomie française, c'est que les EBITDA les plus hauts étaient liés à du burger, de la pizza industrielle et du nugget. Donc ça nous a un peu agacé.
Une leçon à retenir. Et ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. En tout cas, bonne chance et bon courage à vous, Thierry Marx. Merci à vous d'être intervenu ce soir dans Les Voix des Entrepreneurs sur Sud Radio. Merci Denis Jacquet.
Avec plaisir.
À mercredi prochain. À 19h, les voix des entrepreneurs sur Sud Radio. Merci à Vanessa Pérez pour toutes ces perles. À chaque fois que vous venez, deux perles, au moins deux coups de cœur. On vous retrouve aussi dans quelques semaines sur Sud Radio. La suite des vraies voix qui font bouger la France. Parlons vrai, toujours avec les entrepreneurs. Vous retrouvez Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart.